c'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Dans des endroits comme ça, vraiment, tu te poses des questions. Comment on a glissé? Comment un projet de société nous échappe? Comment on laisse faire les choses? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça fait longtemps qu'on est là et on n'a vu personne. Il n'y a plus rien, il y a de la terre à nu, il n'y a plus d'animaux. C'était plein de choses et tout ça, ça a sauté. Donc on se retrouve dans des campagnes qui sont réellement déshumanisées. Voilà, où tu sais que tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas cultiver là-dedans tout seul avec tes petits bras, quoi.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Sur quel modèle agricole l'Union européenne va-t-elle miser dans les prochaines décennies ? La version intensive et polluante qui est promue depuis les années 60 par la politique agricole commune, 50 milliards d'euros par an, soit 43% des dépenses européennes, subventionnent essentiellement des grandes fermes industrielles qui pratiquent la monoculture à coups de produits chimiques. Résultat, 60 ans plus tard, disparition des paysans et de la biodiversité, pollution des sols, de l'eau, émissions de gaz à effet de serre en pagaille et des surplus qui inondent les marchés des pays en développement. Le 26 mai, nous allons élire les députés qui voteront la réforme de la nouvelle politique agricole commune. Du coup, les études et les collectifs se multiplient pour présenter d'autres modèles plus respectueux de l'environnement. Donc nous, on en parle dans C'est pas du vent.
C'est la base de la destruction des sols, c'est l'utilisation des engrais. Ça paraît incroyable, et c'est ça qui a fait qu'on a perdu nos sols, parce que le fait de mettre des engrais, on a minéralisé trop vite la matière organique, on a perdu la faune qui aère les sols, qui fait rentrer l'eau, qui fait rentrer l'oxygène, et à ce moment-là, on rentre dans un processus de destruction des sols.
Le drame de l'agriculture, c'est la guerre. La sortie de la guerre de 14, on avait d'énormes usines qui fabriquaient des nitrates pour les bombes, il faut les recycler en agriculture. Les tanks, on ne sait pas quoi en faire, on les recycle en tracteur. Les barbelés, on ne sait pas quoi en faire, on va arracher toutes les haies pour mettre des barbelés à la place des haies. Les gaz de combat, l'hyperite va être transformé en DTT, le type aura le prix Nobel pour ça. Et l'agent orange du Vietnam transformé en herbicide.
On achetait tant de tonnes d'engrais tous les ans, toujours un petit peu plus parce qu'il fallait encore produire plus. Et c'est toujours comme ça qu'on travaillait et je ne posais pas de questions.
Nous avons le pouvoir, nous pouvons, nous citoyens, faire quelque chose. Et je pense qu'on peut le faire aussi à levier. Ça sera long, mais on peut le faire.
Vous venez d'entendre deux infatigables défenseurs des sols, les microbiologistes Claude et Lydia Bourguignon, car le sol, c'est la base de notre alimentation et c'est comme si nous l'avions oublié. Bonjour Pierre-Marie Aubert.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Valence, dans le sud-est de la France, grâce aux équipes techniques de France Bleu Drôme Ardèche, que je remercie au passage. Vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et avec 12 autres scientifiques, vous venez de publier un scénario qui démontre que l'agroécologie est le modèle qui coche toutes les cases pour nourrir les Européens durablement d'ici 2050. Alors vous allez nous démontrer cela, mais tout d'abord expliquez-nous pourquoi le système agricole européen, qui est souvent présenté comme performant, n'est pas durable.
Alors, le système alimentaire actuel européen, il a de multiples composantes. Il a, depuis les années 50, où il s'est structuré avec la politique agricole commune, permis de faire beaucoup de choses. Donc, on va d'abord commencer par mettre au crédit de ce système alimentaire une capacité de production qui a permis de nourrir les Européens jusqu'à aujourd'hui, qui s'est transformée en capacité d'export, et une capacité à générer des emplois et, en gros, une valeur ajoutée économique importante. Donc ça, c'est à mettre au crédit de ce système alimentaire. Le revers de la médaille, en quelque sorte, ça a été une transformation hyper rapide de l'ensemble des composants du système alimentaire, à commencer par l'alimentation et jusqu'à la fourche, de la fourche à la fourchette. Côté alimentation, l'augmentation de la production, elle est allée de pair avec des changements radicaux des comportements alimentaires qui se traduisent aujourd'hui par l'explosion des maladies, ce qu'on appelle les maladies chroniques non communicables, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, etc., donc le surpoids, l'obésité, qui ont un coût pour la société qui est extrêmement important et qui est associé en fait à l'augmentation de la prise calorique, de la prise protéique et de la prise en sucre, qui en fait provient, pour une part en tout cas, de l'augmentation de la production agricole et de la baisse tendancielle des prix à la consommation des produits agricoles. Alors ce modèle agricole, comment est-ce qu'il s'est transformé? Eh bien, il s'est transformé à l'échelle des fermes en tout cas, on va dire de trois manières. Spécialisation des fermes comme des territoires, intensification de la terre et spécialisation, spécialisation, intensification et concentration donc des fermes de plus en plus grandes, pilotées par de moins en moins d'agriculteurs. Et ça, ça a eu des effets extrêmement importants sur la biodiversité, sur les sols, comme on en témoignait juste avant Lydia et Claude Bourguignon, sur les ressources naturelles au sens large, hein, la gestion des eaux qui sont polluées aux nitrates et aux pesticides, et puis donc avec une augmentation de la dépendance de l'agriculture aux énergies fossiles, et donc en particulier une augmentation des émissions de gaz à effet de serre jusqu'aux années 90, et depuis lors, une légère baisse de ces émissions. Mais dans l'ensemble, un système alimentaire qui n'est pas durable, dont les externalités environnementales et sociales sont extrêmement fortes. Et du coup, la question, c'est que faire? Où peut-on aller? Vers où doit-on mettre le cap pour restaurer les qualités de ce système alimentaire?
Oui, alors le cap, on va en parler tout à l'heure, hein, vous prenez l'agroécologie, mais comme vous l'expliquiez avec ce panorama, ce sont les fondements finalement du modèle agricole qui vacille aujourd'hui. Vous parliez des intrants chimiques, c'est ce qui a permis d'avoir aujourd'hui des taux de productivité par hectare qui sont assez incroyables, mais au détriment, comme vous le disiez, des sols que l'on a tués, des eaux que l'on a polluées, et au détriment aussi de la santé des agriculteurs au passage.
Et de la santé des agriculteurs et de la biodiversité. Donc, toutes ces quatre dimensions, la santé des agriculteurs, santé des consommateurs, sol, ressources naturelles, biodiversité, sont en fait quatre piliers extrêmement déterminants du bon fonctionnement de notre système alimentaire qui aujourd'hui sont en fait mis en danger par le modèle qu'on a sous les yeux.
Alors un modèle qui fonctionne à coup de subvention, hein, c'est le principe de la politique agricole commune qui incite donc, hein, vous le disiez, les agriculteurs européens à se spécialiser, à intensifier leur production, à s'engager dans une compétition à l'agrandissement et au suréquipement, hein, c'est ce que vous démontrez dans votre scénario, alors qu'il faudrait compter ce qui compte vraiment, comme nous l'explique Maxime de Rostolan, le fondateur du réseau aux fermes d'avenir.
L'agriculture chimique coûte très cher. Elle coûte très cher. Alors bien sûr, ça ne se voit pas sur le ticket et sur la valeur du produit qu'on achète. Mais parce que des dizaines, des centaines de lobbyistes travaillent depuis des années d'arrache-pied pour l'agro-industrie, pour réussir à externaliser les impacts de leurs pratiques. Autrement dit, ils disent « Ah, il y a des algues vertes ». Très bien, mais ça n'a rien à voir avec nous, les algues vertes. Pourquoi nous, on paierait? Allez, on va mettre ça sur les impôts et puis ça relève des impôts publics. Les problèmes de santé? Oh non, il n'y a aucun lien entre la santé et la malbouffe. Non, c'est pas possible. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de répercuter ce coût sur la valeur de nos produits. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réintégrer ça. Il faut réintégrer les externalités parce qu'il y a une distorsion de concurrence terrible entre un agriculteur chimique qui fait les trucs comme il le souhaite et qui a des externalités négatives sur plein de postes de dépenses, la biodiversité également. Et donc une distorsion de concurrence entre cet agriculteur-là qui fait porter les coûts à la charge des citoyens et un agriculteur biologique ou un mec qui fait de l'agroécologie qui, lui, investit son temps, son argent dans le capital naturel et le capital humain pour préserver des liens sur le territoire, etc. Et ça, c'est à sa charge. C'est pas normal. Donc, du coup, on dit il faut...
Et, nous, et
on
c'est, appelle... aussi, c'est aussi un moyen de créer de l'emploi, parce que, finalement, l'agroécologie emploie du monde, hein, contrairement à l'agriculture industrielle.
En tout cas, ce qui est sûr, nous, on dit que, bien sûr, ça va employer beaucoup de gens, ce qui est sûr, parce que ça, on peut...
Vous dites 200 000 emplois.
Ouais, nous, on veut créer 200 000 emplois, bien sûr. Mais on nous dit que c'est ça qui... Ils nous demandent... Mais comment vous allez créer de l'emploi? On pense que les techniques prouvent qu'il faut plus de bras pour aller dans dans l'agroécologie. Mais c'est surtout que l'agriculture industrielle, clairement, alors là, c'est avéré, elle a détruit 80% des emplois de paysans sur les 30 dernières années.
Enfin, donc là, aujourd'hui, en France, 3% de la population active, à peine 2%, et ça baisse de plus en plus, et dans l'agriculture.
Bien sûr, c'est rien du tout, et ça ne marche pas. Une société qui se repose seulement sur 2% des actifs pour se nourrir, elle est évidemment obligée d'importer, ou évidemment obligée de manger des trucs de mauvaise qualité qui sont faits par des machines, bientôt des robots. Et clairement, il faut commencer à porter ces sujets-là, il faut changer de lunettes pour pouvoir compter ce qui compte vraiment.
Changer de lunettes pour compter ce qui compte vraiment. Comment réagissez-vous à ces propos, Pierre-Marie Aubert?
Je pense que là, Maxime nous dresse un panorama, alors un petit peu au vitriol, mais qui a le mérite de pointer en fait les grands enjeux. La question de la création de l'emploi, on pourra y revenir tout à l'heure, elle est quand même pas si simple. Elle renvoie aussi au coût de notre alimentation. Il faut compter ce qui compte vraiment. Maxime, il a raison de le pointer. En attendant, si demain, tout ce qui est aujourd'hui pris en charge par nos impôts se retrouve incorporé dans le prix de l'alimentation parce que c'est des gens qui travaillent, eh ben, ça va demander de repenser radicalement la manière dont on consomme et dont on se nourrit. Et ça, ça fait partie de l'équation et c'est un élément central qui est bien souvent un petit peu trop mis de côté.
Alors j'aimerais me demander une réaction aussi à un autre invité qui écoute sagement nos propos à mes côtés depuis le début de l'émission. Bonjour Jean-Jacques Fasquelle.
Bonjour.
Alors nous vous avons déjà reçu dans C'est pas du vent pour votre premier métier, j'ai envie de dire. Vous êtes maître composteur en quelques mots.
En quelques mots, je forme au compostage et je mets en place, j'accompagne la mise en place de projets de compostage en pied d'immeuble, en école, en entreprise.
Et vous avez été réellement pionnier à Paris dans ce domaine, mais là on vous reçoit parce que vous venez de publier Carnet de Woofing, partager le quotidien des fermes bio aux éditions Terre Vivante. Alors comment est-ce que vous réagissez à ce que nous disons depuis le début de l'émission ?
Bah, je suis bien sûr complètement convaincu. Plusieurs éléments. Enfin, moi, j'ai voulu faire du woofing, c'est-à-dire d'aller découvrir le quotidien des fermes bio, justement pour voir un peu l'envers du décor. Hein, c'était, je suis très curieux de nature. Donc, bien sûr, je fais le
choix.
Vous
avez voulu aller au-delà de votre assiette, quoi.
Tout à fait. Je mange bio pour les raisons qu'on a évoquées, hein, parce que je suis, la chimie, c'est pas bon pour ma santé, ça détruit le sol, etc. Donc, j'ai voulu aller voir le quotidien de ces fermiers qui produisent ça. Et ce que je vois, déjà, je vois des gens qui sont heureux. On parle beaucoup des exploitants agricoles qui se suicident ou qui n'arrivent pas à en vivre. Là, moi, je vois des gens qui sont heureux, qui arrivent à vivre chichement, mais qui arrivent à vivre bien, dans la bonne humeur, et qui produisent une nourriture qui est formidable. Enfin, qu'on a envie, ça qui est superbe dans le woofing, c'est que quand on participe à la production de cette nourriture, aller ensuite la vendre au marché, c'est formidable, parce que quand vous vendez un produit de qualité, ça se vend tout seul.
Alors on va rappeler quand même ce que c'est que le woofing, vous expliquez pour ceux qui n'en ont jamais entendu
effectivement,
parler.
Effectivement, donc le woofing c'est un mouvement qui permet d'aller découvrir le quotidien des fermes bio en participant librement et bénévolement aux activités de cette ferme. Le gîte et le couvert sont offerts par le paysan et on travaille, alors attention au mot travail, on participe aux activités à hauteur en général de 5 heures par jour, 5 jours par semaine.
Donc 20 à 25 heures par semaine.
Tout à fait.
Mais on n'a pas besoin d'être spécialiste de quoi
alors,
que ce soit.
Pas du tout. Mais je rappelle quand même, pas de lien de subordination, pas de notion de rentabilité. Ce n'est bien sûr pas du travail salarié. Et on n'a pas besoin d'être un spécialiste. Justement, l'échange va se faire dans le fait où le paysan va vous expliquer ce qu'il fait au quotidien et vous allez reproduire ce geste un petit peu comme un apprenti le temps que vous êtes là.
Alors ça existe, je le précise quand même, dans une centaine de pays. Hein. Ce n'est pas que en Europe, loin de là. Et alors vous avez décidé de faire du woofing majoritairement en France, en disant qu'on n'est pas, on n'a pas fini de s'émerveiller des paysages de notre pays et de la richesse, malgré tout ce qu'on vient de dire avec Pierre-Marie Aubert.
Tout à fait, pour des raisons écologiques, en disant que si je peux le faire en France, c'est mieux par rapport à mon bilan carbone de transport. Et c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir un pays qui est fabuleux quoi, en termes de paysages, d'univers et de production aussi agricole complètement diversifiée. Hein. Moi, j'ai aussi bien fait du fromage, du vin, du pain, des légumes, etc., etc. Donc, c'est... Voilà.
Il y a combien de fermes qui accueillent des woofers en France aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, il y a 1800 fermes référencées en France. Et elles sont implantées bien sûr partout en France. Il y a peut-être un petit peu plus dans le sud, mais grosso modo, on en trouve partout. Si vous voulez aller dans le nord de la France, vous trouverez aussi bien des fermes que dans le sud.
Voilà, 1800 fermes qui attirent plus de 10 000 woofers.
13 500 woofers.
Voilà, et ça, ce n'est qu'en France, mais à l'échelle mondiale, c'est un mouvement colossal. Ouais. La preuve qu'une agriculture à taille humaine et respectueuse de l'environnement attire de plus en plus de monde. On en parle juste après une petite pause musicale. En compagnie du Malien Soribamba.
Maestro,
culture aujourd'hui dans C'est pas du vent avec nos deux invités, Pierre-Marie Aubert, chercheur à l'IDRI qui coordonne le scénario TIFA ou comment nourrir les Européens grâce à l'agroécologie, et Jean-Jacques Fasquelle, auteur de Carnet de Woofing, partager le quotidien des fermes bio aux éditions Terre Vivante.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
L'agroécologie serait donc le modèle agricole à promouvoir en Europe, mais pas seulement. Je vous propose d'écouter la définition qu'en fait l'agronome Marc Dufumier.
La première idée, c'est de faire un usage intensif de l'énergie solaire pour la transformer en énergie alimentaire. Là, les plantes savent faire ça, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et honnêtement, faire un usage intensif d'une énergie naturelle renouvelable comme l'énergie solaire, moi, je trouve rien à redire, bien au contraire. Et ça voudrait dire que tous les rayons du soleil, au lieu de tomber à terre, devraient tomber sur des feuilles, feuilles capables de pratiquer ce qu'on appelle donc cette photosynthèse. Fabriquer de l'énergie alimentaire, c'est fabriquer du sucre, de l'amidon, des huiles, des hydrates de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone ? Dans le gaz carbonique de l'air. Il y a trop de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. Dire aux agriculteurs, allez-y, prenez ce gaz carbonique, la plante va en prendre le carbone, relâcher l'oxygène, elle va nous fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, des pailles, et même peut-être plus tard de l'humus dans les sols. Moi j'ai envie de dire, un usage intensif de ce qui est pléthorique, allez-y, sans retenue.
Je suis un défenseur de l'agroécologie. D'abord un peu comme discipline scientifique, hein, parce qu'on dit agroécologie, logique, c'est ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être. À savoir que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas séparément le sol, le troupeau, la plante, c'est à chaque fois des agroécosystèmes extrêmement complexes, et chaque technique agricole a un impact bien plus important que le travail du sol sur le sol, un vaccin sur l'animal et un traitement phytosanitaire sur la plante. C'est bien l'ensemble de l'écosystème qui réagit à toute intervention humaine. Et donc c'est assez complexe. L'agroécologie est parfois plus le fait d'initiatives paysannes que de conseils donnés par les agronomes. Hein, si vous allez dans certaines régions de l'Afrique sahélo-soudanienne, donc dans des régions où quand même le problème de la faim, de la malnutrition est très largement posé, vous découvrez parfois que par ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée, les agriculteurs parviennent à sauvegarder quelques arbres utiles qui peuvent jouer un rôle absolument considérable dans la fertilisation des sols et donc des cultures. On pense évidemment aux nérés, aux karités, mais aussi à un acacia albida qui a cette capacité d'aller chercher les éléments minéraux en profondeur, de les mettre dans les feuilles. Quand les feuilles mortes tombe à terre, ça fertilise à couche arable. C'est une légumineuse qui fixe l'azote de l'air. Et cet arbre a cette particularité, c'est qu'il poursuit la photosynthèse et la fixation de carbone à partir du gaz carbonique. Il le fait en pleine saison sèche. Et il perd ses feuilles au moment de la saison des pluies, ce qui fait qu'on peut cultiver du mil et du sorgho sous la frondaison. Et sous la frondaison des arbres, le rendement est entre 2 à 3 fois supérieur à ce qu'il est dans les interstices.
Mais pour constater cela, il faut être sur le terrain. Donc c'est peut-être pour ça que ce sont les agriculteurs, plus que les agronomes, souvent dans leur bureau en ville, qui portent ces problématiques.
Très juste. C'est souvent aussi parce qu'on ne va pas assez sur le terrain. Là, je parle d'un certain nombre d'experts hein, qu'il m'arrive de côtoyer, que les gens méprisent un peu ce genre de pratiques qui sont peut-être, c'est des évolutions lentes, vous savez. Mais même là au sud du Mali, par exemple, là, en utilisant des crédits gagés sur la production cotonnière, des gens ont pu s'équiper de charrues, de charrettes, ils ont eu accès à la traction animale, et en l'espace peut-être de 35 ans, dans certaines régions, ils sont passés d'une agriculture qui était une agriculture d'abattis-brûlis, où on abattait, où on brûlait les arbres, et après on laissait une période de jachère, comme on disait, de plusieurs années, à une culture permanente avec des rotations complexes, coton, maïs, sorgho, mil, arachide, et après ça, on remet en culture. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est cultivé sous parc arboré, et surtout, les agriculteurs épandent les déjections animales d'éleveurs qui, un peu plus loin, ont accès à des terres pastorales, parquent leurs animaux la nuit, et c'est les agriculteurs qui viennent chercher les bouses dans le parc pour fertiliser leurs champs. Ça s'est passé en 35 ans, c'est relativement rapide et c'est redoutablement efficace.
Et voilà, un cours d'agroécologie en direct à la radio signé Marc Dufumier. Pierre-Marie Aubert, que souhaitez-vous ajouter à cette définition ?
Alors, le cœur de la définition ou de l'approche que propose Marc, enfin, en tout cas moi ce que j'en retiens, outre la question de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire, c'est ce qu'il a dit à la fin, c'est-à-dire le fait de gérer la fertilité à des échelles territoriales fines, en utilisant à la fois des plantes qui fixent de l'azote, fixent la fertilité, c'est ces fameuses acacias albida dont il parle, et puis en reconnectant les animaux et les végétaux. Et c'est la déconnexion notamment entre animaux et végétaux qui, aujourd'hui en Europe, pose un grand nombre de questions sur la pollution des eaux, la gestion de la fertilité des sols, etc. Donc moi je retiens cet aspect-là qui est central aussi dans la modélisation qu'on a proposée de notre système alimentaire européen.
Oui, parce que vous démontrez dans votre scénario TIFA, hein, qui signifie 10 Years for Agroecology in Europe, que c'est un modèle agricole qui pourrait nourrir donc les Européens durablement. Alors, ça démarre évidemment par la suppression des intrants chimiques.
C'est un tout petit peu plus large. C'est-à-dire que le point de départ de ce scénario, c'était de se dire, mais finalement, c'est quoi la possibilité de nourrir l'Europe avec un modèle agroécologique et comment est-ce qu'on va définir ce modèle agroécologique ? Alors, dans la définition du modèle, l'agroécologie, Marc l'a dit, vous savez, aujourd'hui, c'est un mot qui est très polysémique, on peut l'utiliser pour dire ceci, pour dire cela, on peut parler d'agronomie, mais il y a des gens qui vont parler d'agroécologie comme une science du système alimentaire dans son ensemble. Nous, on est resté, dans un premier temps, sur une logique agronomique, et on a dit, qu'est-ce qu'il faut agronomiquement pour un système agroécologique, et comment on va faire pour tester sa robustesse, pour nourrir tous les Européens en Europe d'ici à 2050, compte tenu de l'accroissement démographique, etc. Alors, le point de départ, c'était de dire, comme l'a dit Marc, on reboucle, on gère la fertilité à des toutes petites échelles territoriales. On reconnecte l'animal, le végétal, on fait rentrer de la fertilité par les végétaux. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, ça a été de se dire, on maximise la biodiversité des agroécosystèmes en s'affranchissant des intrants de synthèse et en redonnant une place centrale à ce qu'on appelle la végétation semi-naturelle. La végétation semi-naturelle, c'est tous ces prairies permanentes, très importantes, et puis les haies, les zones humides, les chemins creux, les habitats pierreux qui parsèment nos campagnes et qu'on a fini par enlever petit à petit de tous nos paysages et à qui il faut redonner une place très importante pour que la biodiversité puisse reprendre sa place, jouer son rôle d'auxiliaire de culture et accompagner en fait la transition vers un modèle agroécologique. Donc c'est ça les deux piliers de notre approche de l'agroécologie qui rejoignent en grande partie ce qu'a dit Marc Duchemier.
Et vous dites aussi qu'il faut redonner sa place à l'élevage.
La place de l'élevage, en fait, elle vient de ce qu'on vient juste de se dire, c'est-à-dire de reconnecter les systèmes d'élevage et les systèmes de culture et de maintenir ces fameuses prairies. Les prairies, on les connaît tous, hein, on en a tous à côté de chez soi. Enfin, j'espère qu'il en reste un petit peu partout en France encore. Et alors, pourquoi ces prairies, elles jouent un rôle majeur et pourquoi avoir des animaux dessus, c'est si important ? Les prairies, elles jouent un rôle majeur à trois égards. D'abord, c'est des espaces qui sont déterminants. C'est la matrice de la biodiversité des espaces ruraux européens. Hein, juste pour donner un chiffre, pour fixer quelques idées, une espèce sur trois que l'Europe s'est engagée à conserver au titre de son engagement international pour la biodiversité est associée en Europe à l'existence de ces prairies et au pastoralisme, c'est-à-dire au fait qu'il y a des animaux dessus. Une espèce sur trois. Donc si les prairies disparaissent, je vous laisse faire le calcul. La deuxième fonction de ces prairies, c'est en fonction de transfert de fertilité. C'est-à-dire qu'avoir des animaux dessus, les prairies, elles vont pouvoir fixer des éléments nutritifs et elles vont pouvoir fixer la matière organique et de l'azote grâce à des plantes particulières qu'on appelle les légumineuses. Les animaux vont brouter cette prairie et ensuite les déjections des animaux vont pouvoir être utilisées pour fertiliser en retour les champs sur lesquels on met des céréales, sur lesquels on met du maraîchage, etc. etc. C'est les fameuses déjections animales dont parle encore Marc Duchemier tout à l'heure.
Et pas de n'importe quels animaux. Hein. Vous précisez qu'il y a des élevages qui sont d'abord pas de trop gros élevages. Hein. Vous dites qu'il faut que ça reste à taille humaine et qui ne soit pas forcément avec des cochons, de la volaille.
Alors en fait, il faut distinguer. Hein. Les agronomes distinguent deux. Il y a deux grandes familles d'animaux. Il y a ce qu'on appelle les ruminants. Tout le monde les connaît. Hein, les vaches, les chevaux, les chèvres et les moutons. Et puis, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon les monogastriques, qui sont les porcs et les poulets. Alors, les porcs et les poulets, ils ont une particularité, c'est qu'ils se nourrissent de céréales. Et donc, leur alimentation vient en concurrence directe avec l'alimentation des hommes. À la différence de nos amis les ruminants, qui, eux, mangent de l'herbe et autres herbacées que les humains ne mangent pas. Et donc, il y a une logique de non-concurrence qui fait de ces animaux des compagnons essentiels pour valoriser l'espace, mais très différente de ce que ne le font les porcs et les poulets. Donc ça, c'est un élément central. Donc des ruminants plus que des monogastriques. Et puis, dans les ruminants, bah, finalement, il faut des ruminants qui vont valoriser l'herbe et les prairies. Et donc, il faut des ruminants élevés, ce qu'on appelle de manière extensive. Aujourd'hui, on sait très bien élever des vaches en leur donnant des céréales et du soja.
Mais ces vaches-là, elles ne vont pas valoriser les prairies.
Importées d'Amérique du Sud, par ailleurs. Mais ces vaches-là, elles ne vont pas nous aider à garder les prairies.
Donc, il faut quoi, remettre en place les races locales, par exemple ?
Races locales, races extensives, des races qu'on appelle rustiques, c'est-à-dire qui sont capables de consommer un aliment qui peut parfois être plus pauvre, évidemment plus pauvre que des céréales ou du soja, ça c'est évident. Et puis nous, ce qu'on promeut aussi dans le travail qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des races mixtes, c'est-à-dire des races qui font à la fois du lait pendant 4, 5, 6, 7 ans, et puis à la fin, qui vont faire de la viande de boucherie de bonne qualité. Et d'arrêter finalement, ou de limiter finalement la grande division qui a émergé depuis une trentaine d'années entre les races à viande et les races à lait. Les races à lait qui font 10 000, 12 000 litres de lait par an pendant 3, 4, 5 ans, et puis après on les envoie à la réforme. Et puis les vaches à viande qu'on sélectionne pour le fait qu'elles soient très grosses, avec des qualités de viande très particulières. Réintroduire des races mixtes, ça permet en fait de faire une double valorisation de l'animal, à la fois pour le lait et pour la viande, et donc de limiter les formes de spécialisation des élevages.
Et donc là, vous balayez d'un revers de la main tout le mouvement vegan.
On balaye d'un revers de la main, c'est beaucoup dire. En tout cas, on met en garde contre une logique qui ferait du véganisme, quelque part, la solution. Il y a de la place pour les végans, il n'y a aucun problème pour ça. Mais il y a plusieurs travaux, les nôtres, mais pas seulement, il y a pas mal de travaux qui racontent assez bien ça, qui montrent que en fait, se passer complètement des animaux, finalement, ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus performant du point de vue de la conservation de la biodiversité, du point de vue de la gestion du potentiel que nous offrent les terres émergées, et puis de la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est clair que l'animal, il a toute sa place dans ce système alimentaire qui va être durable. Et si on peut bien avoir des véganes dans la société, si tout le monde devient végan, il va falloir qu'on remette des animaux qui ne seront pas d'élevage. Et là, je donne ma langue au chat sur comment est-ce qu'on pourrait faire.
Et ce n'est pas valable uniquement l'agroécologie pour les pays européens, hein, comme le démontrait tout à l'heure l'agronome Marc Dufumier, comme le pratiquent tous les jours les jardiniers de l'espoir à Abomey et Calavi, près de Cotonou. Bonjour Tanguy Nikoubou.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur des Jardins de l'Espoir que vous avez fondé à 8 en 2014. Alors avec quelle philosophie ?
C'est vrai qu'au début, en 2014, nous avons commencé à 2. C'était le Jardin de l'Espoir. À la base, nous sommes des étudiants diplômés et qui sont des activistes qui militaient pour des organisations comme ATAC Bénin, comme AMC International, tout ça. Et nous étions aussi des panafricanistes. Mais à un moment donné, on s'est dit, il fallait joindre l'acte à la parole. C'est bien dit de manger bio, c'est bien dit de manger sain, mais il faut que certaines personnes puissent produire pour que d'autres puissent en consommer. Donc on a décidé de devenir des néo-paysans. Et c'est comme cela qu'on a, en décembre 2014, on a créé le Jardin de l'Espoir. Quelques mois après, 6 mois après, d'autres jeunes nous ont rejoints. Et ensemble, on a décidé de créer les Jardins de l'Espoir.
Alors aujourd'hui, votre activité s'est bien développée. Hein.
Oui, aujourd'hui, notre activité s'est bien développée parce qu'aujourd'hui, nous sommes 8 associés et nous avons 5 fermes, 4 au sud du Bénin, à Toribosito, à Semepodji, à Togudo, Calavi, et puis à Zé, et au nord du Bénin, une ferme à Djougou. Donc nous pratiquons de l'agroécologie, donc de la production végétale, du petit élevage, de la pisciculture, de la production des champignons, de la fourniture d'intrants, à savoir du compost. Et qu'on sort. Mais nous ne nous contentons pas seulement de produits et de vendre. Nous consacrons une bonne partie de notre temps à la sensibilisation. Beaucoup d'activités qui ont rapport avec la sensibilisation, puisque la diffusion, les techniques, tout ça. Parce que pour nous, si on veut que le modèle puisse changer, si on veut partir du modèle, revenir au modèle naturel, il faut qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. Donc nous organisons beaucoup de formations, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de projets pour que des personnes puissent s'adonner à l'agroécologie.
Alors justement, vous venez d'organiser la 3e édition de l'Agro Bootcamp qui a réuni une trentaine de participants de 8 pays africains. Preuve qu'il y a des candidats, que ça intéresse du monde.
Oui, voilà. Donc nous avons lancé une initiative qu'on appelait Agro Bootcamp, qui est un camp de jeunes qui dure 7 jours. Donc, il y a 16 jours, pour le moment, nous sommes encore au Bénin. Et pour cette première édition, nous avons réuni, bien sûr, 8 différents pays qui étaient là. Nous avons reçu des participants venant depuis la Mauritanie, ce qui nous a beaucoup touché de la Côte d'Ivoire, tous ces différents pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi de la France. Cela montre que beaucoup de jeunes s'intéressent vraiment aux questions d'entrepreneuriat, mais aussi d'entrepreneuriat qui respecte les questions climatiques. Ce qui fait la particularité de l'agro-bootcamp, c'est un camp qui est beaucoup pratique, et puis c'est un camp qui se déroule en milieu rural, et que c'est un camp où des jeunes, puisqu'il y a 4 profils, il y a des entrepreneurs déjà, il y a aussi des porteurs de projets, il y a des étudiants ou des personnes qui sont au chômage, qui viennent et qui rencontrent des modèles jeunes comme eux qui ont déjà réussi, ou bien des mentors. Donc, ce qui fait que l'engouement commence à aller. Et à cela aussi, on a ajouté aussi de la communication qui permet aux gens sur les réseaux sociaux de communiquer. Donc, pour cette édition, ça a été vraiment une réussite.
Eh bien, félicitations. Restez avec nous. Pierre-Marie Aubert, on entend donc Tanguy Nicobou qui nous parle de l'importance de créer des emplois au Bénin. C'est aussi un gros enjeu en Europe et l'agroécologie permet cela.
L'agroécologie, elle est potentiellement beaucoup plus demandeuse en emploi. Et donc, effectivement, elle a un potentiel de création d'emplois qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, les travaux sur le lien entre transition agroécologique et emploi manque. Et donc, il est difficile de démontrer de manière chiffrée, etc., que oui, on va créer de l'emploi. Et comme je le disais précédemment, cette création d'emploi nette, elle pourrait se faire monnayant des changements assez importants, à la fois dans le processus de production lui-même agricole, mais à la fois dans toute la chaîne de transformation jusqu'au consommateur, avec potentiellement des effets sur le prix et la disponibilité de l'alimentation qui vont être importants. Donc cette création d'emplois, elle ne peut pas se penser seule, elle est à penser dans une transformation de l'ensemble du système alimentaire, et c'est bien c'est le couplage entre transition agroécologique, système alimentaire et emploi qu'il faut penser, et qui aujourd'hui est un travail qui fait encore défaut et sur lequel justement on s'active avec nos collègues de l'INRA.
Alors Jean-Jacques Fasquelle, dans le carnet de Woofer, vous racontez vos expériences dans différentes fermes en France qui pratiquent l'agroécologie, et là ce sont des gens qui ont créé leur propre emploi, hein.
Oui, alors où ils ont créé ex nihilo la ferme, où ils l'ont reprise, où ils l'ont transformée. Mais effectivement, on voit que c'est un moyen de créer de l'emploi. Moi, je suis très attaché au côté small is beautiful. Je pense que c'est la réponse de toute façon à beaucoup d'enjeux de la société aujourd'hui. Alors, s'il faut créer de multitudes fermes pour répondre aux besoins, on le fera. Mais plutôt que les fermes grossissent, il vaut mieux créer des fermes côte à côte, c'est beaucoup plus de toute façon résilient. Et puis chacun donne sa petite touche personnelle, parce que il y a des règles de base de l'agroécologie, on en a parlé, mais ensuite chacun a aussi un feeling, une envie, un enthousiasme différent qui fait que le paysage et la façon de produire sera différente et plus riche.
Vous pourriez aller faire du woofing au Bénin?
Alors, je pourrais aller faire du woofing au Bénin, mais quand j'ai entendu parler de l'agro-bootcamp cette année, j'ai même proposé déjà mes services. Donc, j'espère bien que j'irai peut-être pour une prochaine édition donner un coup de main pour, pourquoi pas, former au compostage. Parce que le compostage, dans un pays chaud comme celui-là, c'est encore plus important, hein, puisque la matière organique, on a du mal à la trouver. Donc, oui, j'adorerais aller faire du bénévolat là-bas.
Alors, Tanguy Nicobou, vous en faites du compost?
Oui, nous en produisons du compost. Nous en produisons du compost et nous sommes en train de dire même nous avons créé déjà une start-up qui est dénommée les fertilisants de l'espoir, qui essaie de fournir tout ce qui est comme compost, pas seulement pour la ferme, mais pour tous ces consommateurs qui, de leur propre potager, à côté de nous, aux environs de Calavi, qui voudraient avoir du compost à la maison pour avoir les petits potagers. Donc nous fournissons aussi beaucoup du compost aux gens.
Voilà, et donc Jean-Jacques Fasquelle est prêt à venir vous voir pour vous accompagner, pour développer vos stratégies de compost. Restez avec nous, nous verrons qu'il n'y a pas que l'agriculture qui doit évoluer, le contenu de nos assiettes aussi. Mais avant de passer à table, une petite pause musicale en compagnie de la réunionnaise Michou.
La tisane n'a pas bon. Dans la case, chasse nous n'est tous les ans. Je suis mais va trouver la raison. Maïla, il veut pis pousser dans la terre, nana la poison. La rivière, si où veut la pêche, la malheur, là aussi, la pluie camaron. Danse Maloya pour mettre l'ordre là-dedans juste minuit. Passe Maloya, la pointe, la tisane pour Kuyali. Danse Maloya pour mettre l'ordre là-dedans juste minuit. Maloya pour mettre l'ordre là-dedans juste minuit. Passe Maloya la pointe la tisane pour Kuyali. Danse Maloya pour mettre l'ordre là-dedans juste minuit. Passe Maloya la pointe la tisane pour Kuyali.
Ton tisane dans C'est pas du vent sur RFI. L'agroécologie est le modèle agricole qui peut nourrir le monde. C'est en tout cas la conviction de nos invités et du collectif pour une autre PAC auquel le youtubeur Nicolas Mérieux a consacré une vidéo revigorante. Extrait.
Les amis, j'ai été contacté par le collectif pour une autre PAC, constitué de plusieurs organisations et qui milite, comme son nom l'indique, pour une autre PAC.
Voilà, ils sont pas emmerdés au niveau du nom.
Alors déjà, qu'est-ce que la PAC? Et non, ce n'est pas la grande sœur de Tupac. C'est la politique agricole commune créée par l'Union européenne en 1962, juste après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on crevait franchement la dalle. La PAC de l'Union européenne, c'est les subventions accordées aux agriculteurs. C'est un budget de 50 milliards d'euros par an en Europe, dont 9 milliards rien qu'en France. Et la majorité de ce pognon est reversée, vous vous en doutez, à l'agriculture intensive. Pourquoi? Eh bien parce que plus t'as de terrain, plus on te file de thunes, et quand t'as beaucoup de terrain, le plus simple c'est monoculture, pesticides et gros tracteurs de bonhomme sa mère.
Aïe aïe aïe.
Mais cette agriculture, faut-il le rappeler, détruit la biodiversité, appauvrit les sols, pollue les eaux. Par contre, elle fait tourner les banques, les vendeurs de semences, l'agroalimentaire et la grande distribution, le tout avec notre pognon. Du coup, avec ce modèle productiviste de merde, on produit assez en volume, voire trop. Et on force les agriculteurs à produire toujours plus, avec toujours plus de pesticides et des machines qui fonctionnent avec toujours plus de pétrole. Résultat, pour la quantité, il y en a, mais la qualité, on repassera plus tard. À noter d'ailleurs que les tomates pour la fabrication industrielle de ketchup bénéficient de soutien spécifique alors que les tomates fraîches, eh ben non, c'est tout à fait logique. Alors forcément, comme on a une politique de spécialisation, plutôt que de faire de la diversité, on te fait d'énormes champs de monoculture pour gagner des parts de marché à l'export, et en attendant, on n'est pas foutu d'avoir une souveraineté alimentaire. Ah super. Plus grave encore, la PAC contribue à faire une concurrence déloyale aux producteurs sur les marchés locaux d'Afrique. Oui, parce qu'on arrive à revendre notre surproduction, subventionnée avec des aides européennes, je le rappelle, en Afrique à des prix inférieurs à leur propre production.
Oui, bon, bah, c'est sûr qu'il y a quelques paysans africains qui tirent la gueule. Ah bah ils ont fait faillite, hein, c'est la loi du marché. Et puis bon, quand même toujours mieux de se prendre un petit billet plutôt que de brûler nos récoltes. Hein? Allez.
Pierre-Marie Aubert, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IDRI, vous coordonnez le scénario TIFA avec 12 scientifiques, un scénario qui démontre que l'agroécologie peut durablement nourrir les Européens, mais cela implique plusieurs révolutions, hein, on l'a un petit peu compris déjà à travers tout ce que nous nous sommes dit, idéologique, gastronomique et économique.
Voilà, et alimentaire en grande partie.
Il va falloir changer le contenu de nos assiettes.
Il va falloir changer le contenu de nos assiettes de manière assez importante. Juste pour quelques chiffres, pour fixer un peu les idées, dans le modèle qu'on a développé, dans le scénario qu'on développe, les hypothèses qu'on fait sur la production agricole conduisent à une diminution de la production. Parce que quand on s'affranchit d'un train de synthèse, quand on s'affranchit des formes de spécialisation de l'agriculture, et bien évidemment, les rendements à l'hectare sont un petit peu inférieurs. Et donc on est sur de l'ordre de moins 35% de baisse de la production d'ici à 2050. Mais ça passe. Ça passe pourquoi? Parce qu'on a une marge de manœuvre phénoménale aujourd'hui du fait de l'importance de la consommation de produits animaux. pour aller assez vite encore avec des chiffres simples, 70% de la production végétale utilisée en Europe aujourd'hui, elle l'est pour nourrir les animaux. C'est-à-dire que si on réduit la part des animaux qu'on consomme, on regagne une marge de manœuvre très très importante dans ce qu'on peut faire de cette production végétale. Donc dans le scénario TIFA, on divise par deux, dans les grandes lignes, la consommation de produits animaux, ce qui permet en fait de regagner des possibilités très importantes et qui permet en fait, même en limitant, même en diminuant la production, de continuer, un, à nourrir l'ensemble des Européens en couvrant la quasi-totalité de nos besoins, deux, de cesser d'importer les protéines végétales qu'on apporte aujourd'hui d'Amérique latine sous forme de soja, et trois, de maintenir une capacité de surplus sur des productions stratégiques, comme les céréales et en particulier le blé. Là, on maintient dans les grandes lignes le montant des exportations sur la moyenne 2005-2010 de l'ordre de 11 millions de tonnes par an, et sur les produits laitiers. Donc voilà, donc si c'est bien sur les comportements alimentaires qu'on peut regagner des marges de manœuvre, qu'on peut réouvrir l'espace des possibles et accepter une diminution relative des rendements à l'hectare, qui s'accompagne du coup d'un gain sur la biodiversité, la fertilité des sols, etc. Du coup, d'améliorer la situation.
Et peut-être avoir aussi une production du coup au plus proche des besoins pour éviter les surplus qu'on envoie notamment en Afrique, comme en parlait à l'instant Nicolas Mérieux. Tanguy Nicobou, comment vous réagissez justement à ces propos de Nicolas Mérieux sur les surplus européens qui inondent les marchés africains? Est-ce que vous le voyez, vous, sur le terrain?
Oui, ici, nous le constatons. Ici, c'est ce que je disais la dernière fois aux gens, c'est que on va demander aux paysans français de produire beaucoup de blé parce que l'alimentation devient géopolitique afin d'inonder ici le marché africain ici. Ce qui fera que ici on va décourager toute initiative qui va mettre en valeur notre mil, notre sorgho afin de pouvoir produire du pain avec les céréales africaines. Donc il y a quand même ces enjeux-là. Juste maintenant, au niveau aussi peut-être de la enfin, ils font le cas du riz ou même de certaines cultures où on décourage et c'est tellement subventionné de l'autre côté. Et finalement, ça devient très, très, très cher. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes commencent maintenant à acheter des produits importés au détriment des produits locaux parce que les produits locaux sont chers. Or, ces produits locaux ne sont pas subventionnés. Donc il y a quand même ces sujets. C'est pour ça que malheureusement, on parle des libres échanges. Donc, tout doit arriver, on doit laisser nos frontières et tout doit arriver. C'est pour ça que nous nous battons pour qu'au niveau local, on puisse consommer local. Il y a plusieurs initiatives, que ce soit au Bénin, dans plusieurs pays, où le consommer local, il y a ce qu'on appelle les AMAP, il y a les ventes directes. Ouais. Donc, l'initiative commence à aller, les consommateurs commencent aussi à être intéressés par la dynamique.
Mais par exemple, dans vos fermes, les Jardins de l'Espoir, vous vendez directement aux consommateurs? Est-ce que c'est plus cher que les produits importés?
Nos prix ne sont pas chers parce que l'idée aussi, c'est que lorsqu'on parle du bio, nos prix sont raisonnables. Quand on parle du bio, on parle d'agroécologie. Nous ici, nous sommes bio et non certifiés. Donc, il n'y a pas forcément à payer une agence de certification.
Non, c'est la certification qui coûte cher, en fait.
Donc, du coup, quand on voit nos coûts de production, nos coûts de production sont très, très infimes parce que le compostage et que la récupération, et tout ce que pour traiter nos ravageurs, pour traiter ce qu'il y a des ravageurs, on utilise des feuilles à base des nîmes, qu'on sort de la cendre, tous ces éléments qui sont très moins chers. Et du coup, nous, personnellement, nos prix du bio valent le prix du marché. Donc, nos prix sont souvent en dessous du marché. Donc, nous, on n'a pas vraiment ce problème-là.
Et sur la notion de création d'emplois, j'imagine que vous avez beaucoup d'ambition puisque vous formez beaucoup de monde au Jardin de l'Espoir.
Oui. Aujourd'hui, c'est notre ambition, c'est pour ça qu'on organise la Go Bootcamp, plus ça qui est un camp d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se dit que comme nous sommes dans des pays où dans beaucoup d'États, on n'arrive pas à résoudre le problème de l'emploi et on pense que l'agriculture aujourd'hui est une alternative à la création d'emplois. Donc, c'est pour ça que nous, est une alternative au chômage, bien sûr. C'est pour ça que nous, on encourage beaucoup l'agroécologie pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes bêtises qu'a connu certains pays, certains continents. Donc, nous, on encourage beaucoup l'entrepreneuriat, mais c'est l'entrepreneuriat d'être pratique. C'est pour ça qu'on fait plusieurs stages, plusieurs camps pour que des jeunes comme nous ne souffrent pas ou même ne durent pas comme nous on l'a duré avant de commencer.
Voilà, et donc, les coordonnées des Jardins de l'Espoir seront bien entendu sur la page de l'émission. Et si on est en Europe et qu'on veut se convaincre de l'importance de l'agroécologie, Jean-Jacques Fasquelle, eh bien on peut pratiquer, on peut devenir woofer sur le terrain. Rapidement, comment on fait?
Alors tout simplement en France, on adhère à l'association Woof France, ça coûte 25 euros, qui vous délivre le sésame, c'est-à-dire la possibilité d'aller sur le site, de sélectionner grâce à des filtres, le site est vraiment super bien fait, la ferme de votre choix, si vous voulez faire du fromage ou du maraîchage, donc vous allez pouvoir faire cette petite sélection. Vous aurez donc un panel de fermes qui va se proposer à vous, et ensuite de l'envoyer un mail à l'hôte qui peut vous recevoir en disant voilà, je voudrais venir à telle date, est-ce qu'il y a de la place? Et puis ensuite il y a une notion d'offre et de demande, et puis souvent on trouve un endroit à la période de son choix pour y aller, puis ensuite c'est le grand saut dans l'inconnu.
Voilà, et ça fait des vacances utiles, et vous trouverez plein d'informations dans le livre que vous venez de publier, Carnet de Woofing, partager le quotidien des fermes bio, c'est publié chez Terre Vivante. Merci Pierre-Marie Aubert, et merci aux équipes techniques de France Bleu Drôme Ardèche qui nous ont permis cette liaison avec Valence. On peut trouver vous aussi votre rapport TIFA sur internet si on veut en savoir plus. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité et pour vos nombreux messages aussi sur les réseaux sociaux. Continuez, nous sommes ravis de vous lire. Facebook, Twitter, hashtag CPDV. Prenez soin de vous et des vôtres et rendez-vous demain. Même planète, même heure.